De façon à reconnaître le travail d'agriculteurs et agricultrices de toutes les régions du Québec, le concours du mérite agricole se tient en alternance dans 5 territoires de la province. Cette année, des entreprises du centre du Québec, de l'Estrie et de la Mauricie étaient en compétition. Première médaille de bronze, ferme Provetaz de production laitière de Compton. Première médaille d'argent, ferme Schmouki de Victoriaville. Et première médaille d'or, ferme Rétez, toujours de production laitière, de Nicolette. Les grands gagnants, Jean Rousseau, Thérèse Gras et Paul Rousseau, ont reçu la prestigieuse décoration. Et Jean Rousseau en a profité pour faire un vibrant plaidoyer en faveur de la gestion de l'offre, ce système maintenant exclusif au Canada et qui, dans les secteurs du lait, des œufs et de la volaille, limite les volumes de production aux seuls besoins du marché intérieur et, en parallèle, limite les importations au pays de tels produits. Ce système a été un peu mis à mal avec les récents accords commerciaux conclus par le Canada. J'ai rencontré Jean Rousseau à l'occasion de cette cérémonie du mérite agricole.
Jean Rousseau, moi je suis un producteur laitier, Nicolette, région centre du Québec. Là, c'est ça, on est ici aujourd'hui, on vient de gagner la médaille d'or, la première médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole.
C'est tout un honneur.
Alors, moi et mon frère Paul et sa femme Thérèse, on est très fiers de cet honneur. On est des passionnés d'agriculture, puis je peux vous dire que ça nous donne du gaz.
La ferme chez vous, c'est la ferme Rétez, c'est ça?
Oui.
Et vous êtes la 8e génération.
Oui, on est une ferme ancestrale de 8 générations. Les ancêtres Rousseau sont arrivés de Saint-Nicolas, ici, près de Québec, en 1786. Ils se sont établis sur le lot 585 de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolette.
Où vous êtes toujours?
Où on est toujours. On a acquéri au fil des ans des terres voisines, mais on est toujours sur le lot original.
Vous avez de la relève, là, 8e génération, il y a une 9e, peut-être même une 10e qui s'en vient?
Bien, c'est ça. Le fils de mon frère Paul, il s'appelle Bernard, il est embarqué avec nous, là, c'est tout frais, là, c'est en octobre. Lui et sa conjointe viennent d'avoir un petit bébé qui a 3 mois, qui s'appelle Jacob. Bon, on ne sait jamais. Peut-être une 10e génération potentielle, mais bon, il peut couler beaucoup d'eau sous les ponts là, d'ici à ce qu'on se rende là. Mais puis aussi, on a d'autres relèves. Il y a un neveu qui est avec nous, Pascal Manceau, qui est le fils de ma sœur. Puis aussi, on a une relève non apparentée qui s'appelle Philippe Leclerc.
Il travaille avec vous depuis un moment.
Il travaille avec nous depuis presque 3 ans. Puis que lui-ci, là, on a intégré dans l'entreprise là, en octobre là, pour lui donner, si on peut dire, des défis, puis des responsabilités. L'entente qu'on a, c'est qu'éventuellement, il va pouvoir avoir sa ferme à lui. Là. On a un plan de match là, qui est établi. Ça devrait fonctionner.
Vous avez profité de la remise de la médaille tout à l'heure pour lancer un rappel, je dirais, au milieu politique, au gouvernement, de façon à ce que soit protégée la gestion de l'offre.
Oui, pour nous, en tout cas, nous autres, notre ferme, on a pu croître avec ce système-là, qui je crois qu'est le meilleur système au monde. C'est un système qui protège les consommateurs, qui protège les producteurs, puis en même temps, les gouvernements n'ont pas besoin de nous subventionner parce que le marché suffit à nous rémunérer adéquatement. Puis je pense aussi que les transformateurs, ils sont gagnants parce que si on regarde les rendements boursiers de les Saputo, les Parmalat et Agropur de ce monde, ils font des très, très bons profits. Je pense que c'est une formule qui est gagnante pour tout le monde. Puis on doit protéger ça bec et ongles. Parce que moi, je suis allé en Europe, je suis allé en France à la suite du démantèlement des quotas. Puis ce que j'ai vu là, c'est des gens désespérés. Ça allait même... Dans une famille, je suis arrivé, puis le fils venait de se suicider. C'est pratiquement, moi j'appelle ça du bien-être social, là. Quand on ne peut pas vivre de notre produit, que pour vivre, il faut faire plein de mesures à côté pour pouvoir survivre, puis qu'on est obligé de, dans le fond, vivre sur le vieux gagné. Je pense pas que c'est un modèle qui est intéressant. Puis ce modèle-là de libéralisation, les seuls à en bénéficier, et je dis bien les seuls, c'est les distributeurs et les transformateurs. C'est les multinationales qui en profitent. C'est le modèle qui a été adopté là-bas. Puis je pense qu'ils le regrettent un peu aujourd'hui, les agriculteurs, d'avoir accepté de démanteler ça. Puis c'est la même chose en Australie. Puis je suis allé aussi en Hollande. Puis c'est la même désolation. Écoutez, ils vendent leur lait en bas du coût de production. Donc, ils peuvent pas, ils vont pas fonctionner longtemps. Là. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais l'avantage et l'inconvénient d'une ferme, c'est qu'il y a beaucoup de capitaux. Donc, on peut croître en augmentant nos capitaux, puis on peut décroître en bouffant nos capitaux, mais à un moment donné, il y a une fin. Puis ça, c'est pas intéressant pour personne. Puis je pense que pour une communauté, d'avoir une agriculture en santé, je pense que c'est la base de toutes les économies des pays du monde. C'est ce qui fait qu'un pays va bien ou qu'un pays va mal, je crois, là.
L'accord de libre-échange Canada-Union européenne, souhaitiez-vous que cet accord-là ne fonctionne pas?
Bien, écoutez, c'est sûr que quand on a eu le résultat final, moi, c'est sûr que comme producteur de lait, j'étais pas content parce qu'on perd 3,25 de notre marché, si on veut, de fromage fin. Je pense que les personnes et les entreprises qui vont être les plus touchées, c'est toutes nos fromageries artisanales au Québec. C'est eux autres qui vont être le plus touchés. Nous autres, les producteurs, on est touchés, mais par contre, le Canada, c'est un pays qui a une population croissante. Les besoins sont croissants. Donc, ce 3,25%-là, il ne fait pas notre affaire, mais je pense que c'est un arrangement du moindre mal, si on peut dire. Il y a des choses, des fois, qui ne font pas notre affaire, mais c'est moins pire ça que de tout perdre, dans le fond, là.
Mais en parallèle à ça, il y a toute la question du lait diafiltré qui continue d'entrer au pays et qui réduit vos quotas de production.
Ça, c'est bien pire, ça. Selon moi, ça, c'est un manque flagrant de prise de responsabilité de la part du gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui est en place, qui refuse de statuer sur le lait diafiltré. Parce que, écoutez, on dit le lait diafiltré qui rentre à la frontière, exemple, on dit c'est des bananes. Puis un coup qui est passé la frontière, on dit c'est des fraises. Regarde, on n'est pas des fous, les agriculteurs. On comprend bien que le lait diafiltré, quand il rentre, c'est pas du lait. C'est du lait diafiltré, c'est un concentré de protéines laitières. Quand il arrive à l'usine, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a dit que c'est du lait. Donc, il y a une incohérence. C'est comme si le gouvernement n'appliquerait pas ses propres règlements à lui. Tu sais, ça n'a rien à voir avec les États-Unis, là. Que le gouvernement en place fasse respecter ses propres règlements, puis le problème, il va être réglé, là. C'est ça, le lait diafiltré. C'est pas con. Ça nous fait très mal parce que ça nous fait mal à deux niveaux. Premièrement, ça nous enlève une certaine part de marché. Et nous, le système canadien, de la façon qu'il fonctionne, dans le lait, il y a trois ingrédients. Il y a la matière grasse, il y a la protéine, puis il y a les solides du lait. Et nous, quand les consommateurs du Canada ont tous fini de consommer le lait en toutes sortes de produits, lait, fromage, yogourt, ce qui reste, qu'on a en surplus, c'est de la protéine, OK? Donc, cette protéine-là, on est obligé de l'envoyer soit aux animaux à un prix dérisoire, soit de l'exporter à des prix dérisoires. Et ce que ça fait, le lait diafiltré, ça l'importe de la protéine. Donc, ça vient grossir notre problème de surplus de protéines. Ça va à l'encontre de notre système. Ça, il faut absolument que le gouvernement règle ce problème-là au plus vite pour que le système puisse fonctionner comme il doit fonctionner. Oui, avec des surplus, mais des surplus normaux de protéines qu'on est capable d'écouler sur le marché animal. Donc, c'est ça, le lait diafiltré, c'est pas compliqué, là. Si du lait diafiltré à frontière, les transformateurs, ils ont des normes de transformation. Ils peuvent pas mettre plus que 10% de protéines modifiées dans la fabrication du fromage. Bon, ça, ils l'ont acquis avec les années, on est prêt à respecter ça. Mais là, en le classant comme du lait, ils peuvent en mettre comme ils veulent. On peut même faire du fromage aujourd'hui avec 35% de lait diafiltré. Puis en plus, on vient berner les citoyens, les Canadiens, parce qu'on leur dit, au Canada, on a des normes de qualité les plus élevées au monde, on a un beau produit de qualité, il n'y a pas de somatotropine, mais dans notre bon fromage cheddar canadien, on met cette cochonnerie-là, qui est le lait diafiltré.
Écoutez, on s'est un petit peu éloigné et c'est correct.
Vous prendrez ce que vous voudrez.
Non, je vais tout prendre, Mais ce que je voulais dire en terminant, bien, félicitations pour la médaille d'or au mérite agricole.
Merci beaucoup à vous. Et je peux dire qu'on est, moi et mon frère Paul et ma belle-sœur Thérèse, on est très fiers d'avoir gagné ce prix. Puis on est des passionnés d'agriculture. On veut continuer à faire de l'agriculture. À chaque matin, on se lève puis on a hâte d'aller travailler.
Ça paraît.
Merci.
Merci beaucoup.
Par ailleurs, je me suis aussi entretenu avec des représentants du verger Gros-Pierre de Compton qui venaient de recevoir la mention spéciale de l'agrotourisme. Mélanie Éliane Marcoux et Gaëtan Gilbert.
Depuis 30 ans, oui, le Gros-Pierre accueille des touristes. Moi, je dis toujours à la maison, puis ils peuvent apprendre tout sur la pomme. Toute l'entreprise est ouverte. Les gens peuvent voir tout ce qui se fait, voir la chaîne de production de nos tartes, peuvent voir l'emballage, voir les gens travailler. Alors, c'est très agréable. Les gens viennent profiter aussi de la nature, de la beauté du paysage, viennent relaxer aussi les dimanches après-midi, les samedis.
Et ça veut dire pour quelqu'un comme vous, Gaëtan, que en plus du travail dans le verger, il faut être gentil avec les gens.
Bien, on est toujours gentil avec les gens. On aime les gens. On aime la terre, mais on aime les gens. C'est ce qui nous fait vivre. On aime transmettre notre passion à nos gens, à nos visiteurs, leur montrer c'est quoi le métier de pomiculteur et qu'on est passionné.
Et là, est-ce que la récolte est terminée?
Oui, la récolte est terminée depuis le 16 octobre et les frigos sont pleins. On va être ouvert jusqu'à Noël et on est content.
Donc, il va se faire encore beaucoup de tartes, là.
Beaucoup de tartes aux pommes, puis on continue aussi de développer des nouvelles saveurs de pommes, comme on le fait depuis quelques années.
Oui, vous en avez quelques-unes en réserve, là, que vous surveillez très attentivement.
Oui, il y a Eureka qui est surveillée, il y a aussi la Poune, et il y en a quelques-unes qui portent des numéros. Et il y a aussi la Pitchounette cette année qu'on a eu quand même en grande quantité, que les gens peuvent encore goûter, qui est vraiment une petite française qu'on a adoptée, là. Qui est vraiment très, très savoureuse.
Il y en a encore au verger, là.
Oui, il y en a encore présentement, oui.
Bien, merci beaucoup et félicitations.
Bien, merci à vous.
Merci beaucoup.
Mélanie, Éliane Marcoux et Gaëtan Gilbert en ont profité pour saluer une pionnière du verger Gros-Pierre, Diane Goyette. Ici Lionel Levac. Dans mon prochain blog, je vous parlerai de changement climatique et de leurs effets sur la production laitière au Québec. Au revoir.